tous, merci d'être avec nous sur RTL. On est ensemble pendant une heure pour découvrir la face cachée d'une personnalité. Soyez les bienvenus dans Confidentiel. Bernard Lavilliers est, par définition, l'homme des zones d'ombre. Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'il a raconté toute sa vie, cet éternel conteur? Qu'a-t-il imaginé? La plus grande réussite de Lavilliers, au-delà de sa vingtaine d'albums, c'est certainement d'avoir créé une légende sans égale. D'ailleurs, faut-il vraiment chercher à décrypter le vrai du faux avec lui? Pas sûr que cela soit nécessaire et même que cela soit possible. Cette légende, c'est aussi celle qui a fait qu'à 78 ans, il vient de recevoir aux dernières Victoires de la musique un hommage extrêmement émouvant. On vous emmène aujourd'hui en voyage avec l'un des plus grands baroudeurs, l'un des plus grands conteurs, pour essayer de comprendre qui se cache derrière les incroyables récits d'aventure et ce qui l'a animé toute sa vie. Confidentiel Bernard Lavilliers, c'est tout de suite. Et juste après, je recevrai quelqu'un qui le connaît très bien, Véronique Mortain, journaliste et biographe.
Ophélie Meunier. Confidentiel. Sur RTL.
On est en novembre 2005 au Palais des Sports de Saint-Étienne. L'endroit a été transformé pour l'occasion en salle de concert. L'ambiance est électrique. Et pour cause, plusieurs milliers de Stéphanois sont venus assister au retour de l'enfant prodigue, Bernard Lavilliers. L'artiste vient de sortir Carnet de bord, c'est son album le plus vendu à ce jour, plus de 500 000 exemplaires, et il a décidé de faire escale chez lui, alors qu'il est au firmament. Ce concert a une saveur un peu particulière pour le chanteur. 30 ans plus tôt, en 1975, il avait sorti un autre disque, le Stéphanois. Cet album, dans lequel il rend hommage à sa ville natale, a marqué un tournant dans sa carrière. C'est à partir de cet opus-là, son troisième, que va vraiment se dessiner le style Lavilliers. De la chanson française en forme de carnet de voyage, avec des textes engagés et des musiques exotiques. Mais l'album Le Stéphanois représente aussi une pierre angulaire dans la création du mythe Lavilliers. Celui d'un musicien aux mille vies, d'un chanteur globe-trotteur qui raconte des histoires venues d'ailleurs, d'un auteur à l'imaginaire fertile et qui brise volontiers les lignes entre rêve et réalité.
Si tu vas à San Salvador, va voir la fin.
Ces histoires de femmes, ces histoires d'hommes et de pays lointains, Bernard Lavilliers les livre depuis les années 70. Et ce soir de novembre 2005, à Saint-Étienne, ça fait un bon moment que l'aventurier stéphanois ne s'est pas produit ici. C'est dire que celui qui porte si haut la fierté ouvrière locale est attendu. Car même si Lavilliers a beau vivre maintenant aux antipodes de ce monde, loin des hauts fourneaux et de la manufacture d'armes où il a travaillé dans le passé, ici, personne ne l'a oublié. Le Palais des Sports de Saint-Étienne se transforme en chaudron quand l'artiste entre sur scène pour chanter tous les titres qui ont fait son succès. Les Mains d'or, Betty, la salsa, Noir et blanc, On the road again. Le public ce soir-là, c'est l'un des leurs qu'il célèbre. Bernard a même ajouté spécialement le morceau Saint-Étienne à la setlist.
On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville. La rue artérielle limite le décor.
L'émotion est palpable, vous l'avez compris. Dans la salle, mais aussi sur scène. Bernard Lavilliers est cueilli par l'ovation qu'on lui fait à la fin du concert. Jamais on ne lui a fait un tel accueil dans ce lieu. Ses parents sont là aussi, comme à chaque fois qu'il passe dans le coin. Le chanteur est devenu bien plus qu'un simple artiste reconnu. Une véritable légende locale, avec, on l'a dit, son lot d'histoires, de chansons et de récits de voyage. Les mille vies de Bernard Lavilliers s'étalent alors, au volant d'un camion en Amazonie, sur un ring de boxe à Rio ou chez Bob Marley à Kingston.
Voyage, il y a ce que l'on fait et ce qu'on imagine.
C'est vrai qu'on ne sait plus trop distinguer le fantasme de la réalité avec Lavilliers. Lui-même joue de cette ambiguïté. D'ailleurs, ne se présente-t-il pas régulièrement en aventurier de la chanson française? Quand la légende est plus belle que la réalité, gardez la légende. Cet adage, on peut dire qu'il l'a fait sien.
Toujours vers le danger d'ailleurs, enfin on l'imagine.
Il est bien loin le temps où il travaillait ici à la manufacture avant d'embarquer vers son destin. Cette période de sa vie est pourtant fondatrice dans la trajectoire de Bernard Lavilliers. Depuis ses années 60-70, sa guitare, sa légende et lui ont fait un sacré chemin, c'est vrai. De Saint-Étienne au Brésil, de la Jamaïque à New York, en passant évidemment par Paris. Mais c'est bien à cette époque, celle des Vaches Maigres, comme des premiers succès, qu'il faut remonter pour comprendre ce qui anime le chanteur globetrotteur, ce poète voyageur et ce conteur universel qui se cache derrière ces innombrables récits d'aventure. Bernard Lavilliers, sur les traces du baroudeur, c'est le grand voyage que vous propose Confidentiel aujourd'hui. Le grand voyage, avant d'y goûter concrètement, le futur chanteur l'a d'abord imaginé depuis Saint-Étienne. Car avant de devenir Lavilliers, le petit Bernard s'appelle encore Houlion, de nom de famille. Et pour l'instant, il est le deuxième enfant de Claudius et Georgette. Le père est ouvrier à la manufacture et un syndicaliste attaché aux valeurs de 1936. La mère a été institutrice. Tous les deux ne croient qu'à une chose, l'émancipation par la culture. Chez eux, il y a des livres partout. Georgette donne goût à la lecture à ses enfants avec les Fleurs du Mal de Baudelaire. Toute son enfance, Bernard sera biberonné aux mots des poètes, à leurs mélodies. Le soir, on écoute Eric Satie, Léo Ferré, Django Reinhardt, mais aussi de la musique cubaine. Le mambo, les congas, les maracas. Et le Bernard, il aime ça immédiatement. À l'école, son ancien instituteur l'a d'ailleurs repéré. Ce petit garçon solitaire et timide a quelque chose de différent des autres élèves. « Je sens qu'il fait partie des artistes », se dit-il. Alors son instinct l'encourage à sa manière, par exemple, il lui donne les poèmes à réciter devant toute la classe. Bernard aussi commence à sentir vibrer quelque chose en lui. Ou plutôt, quelqu'un. « Un artiste », dit-il. « Je voulais écrire, chanter, voyager. » Et ce voyage, il le débutera à travers un instrument, la guitare. À Saint-Étienne, il y avait des gitans, racontera Bernard Lavilliers. Dès que mes parents m'ont acheté ma première gratte, vers 12 ou 13 ans, mes potes gitans, voleurs de poules, m'ont appris à en jouer. C'était pas de la tarte, parce que eux en jouent super bien. Au départ, son père n'est pas derrière lui. Il ne croit pas à cette vocation d'artiste. Il lui lance un jour, soit un ajusteur de précision avant d'être chanteur de charme. L'apprenti musicien et grand rêveur se retrouve donc dans le dur, direction la manufacture d'armes de Saint-Étienne, pour travailler comme ouvrier. Pour ma mère, je suis devenu un homme quand je suis devenu un travailleur, quand je suis entré à l'usine et que j'ai rapporté des ronds à la baraque. Bernard travaille alors de nuit, et le jour, il le passe à noircir des cahiers d'écolier et à jouer de la guitare. Mais à l'atelier où le manuchard Houlion a été affecté, l'artiste Lavilliers, lui, pointe déjà le bout de son nez. Dans cet univers de mécanique, on dirait qu'il a déjà une vie parallèle. Le lundi, à l'embauche, il raconte déjà super bien les aventures extraordinaires qui lui sont arrivées pendant le week-end. Ses collègues, de par le peu d'intérêt qu'il montre à l'ouvrage, l'ont surnommé « Lime sourde ». Et il se paye rapidement une réputation de bonimenteur. Qu'importe, Bernard Houlion est déjà animé par cette fibre de conteur d'histoire. Et ses mêmes collègues, pas rancunier et toujours solidaire, viennent le soutenir pendant les premiers concerts de l'artiste en herbe.
Potence d'oubli, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux passeront ma peau comme à l'étamine.
On est en juin 1965. Le jeune Houlion reprend Ferré ou Brassens, ici et là, dans les MJC et les amicales de la région. Et pour bien couper le cordon avec la manufacture et ce monde ouvrier qui l'a enfanté, il vient de se trouver un pseudonyme, Lavilliers. « Je me suis mise au monde », dira-t-il. « J'ai inventé ça, j'ai trouvé que ça avait un petit côté aristocrate de la rue qui va bien. » Bernard Lavilliers, l'artiste, vient de voir le jour. Le Stéphanois va bientôt faire ses adieux à Bernard Houlion l'ouvrier et à Saint-Étienne. Le poète et ses rêves d'ailleurs veulent aller voir ce qu'on trouve au-delà des laminoirs et des cheminées d'usine. À 19 ans, voilà donc le futur globetrotteur Bernard Lavilliers sur le point de mettre les voiles.
Une vapeur d'amour, la la faveur d'un détour.
1965, Bernard Lavilliers quitte Saint-Étienne. L'appel du large était trop fort, vous l'avez compris. Ses rêves de voyage commencent alors. Il raconte en 2004 au journal Le Temps, « Quand j'étais à l'usine, à Saint-Étienne, il faisait très froid. Je travaillais la nuit, je faisais mon boulot consciencieusement, mais je n'en pouvais plus. Alors je me suis barré au Brésil. J'avais vu le film Orfeo Negro. Ce n'était pas une fuite, je m'entendais bien avec ma famille. Mais je voulais vivre l'aventure, ne plus être dans le fatal, vissé au destin d'un ouvrier. » En cet été 1965, Bernard Lavilliers est donc en route pour le Brésil. Le Brésil, sa bossa nova et sa samba. Cette musique qui vient tout droit des favelas et qui le fascine tellement. Selon la légende, ce voyage initiatique aurait eu lieu au hasard d'une rencontre. Un soir, dans un bar de Saint-Étienne, il aurait fait la connaissance d'une hôtesse de l'air pour qui il aurait eu un coup de foudre et il aurait pris un vol pour Rio. On adore l'histoire. De là, sans un rond et sans parler le moindre mot de portugais, il aurait pris, seul cette fois, la route de Salvador de Bahia. Je continue l'histoire. Il se serait amouraché d'une Brésilienne, il y serait resté un an, aurait travaillé comme docker, avant de prendre la direction de Belém, au nord d'un pays mené de main de fer par une violente dictature militaire. Grâce à un ancien légionnaire français, Bernard conduit alors des camions de bois précieux sur des pistes amazoniennes. Au volant d'un gros cul, avec son Marcel trempé de sueur et plein de cambouis, Bernard se la joue salaire de la peur. Surtout qu'il y aurait même fait un séjour en prison. La légende Lavilliers est clairement en route. Tout son personnage aventurier, c'est important, se fonde vraiment sur cet épisode brésilien. Comme un premier chapitre prometteur d'une saga romanesque qu'on ne demande qu'à poursuivre. Ces 18 mois, on ne sait pas trop, passés au Brésil, viennent d'ouvrir les perspectives musicales de Lavilliers. Sauf qu'à en croire le biographe Michel Camper et son livre « Les Villiers de Lavilliers », ce goût pour la musique brésilienne aurait tout aussi bien pu naître complètement ailleurs. À Paris, tout simplement, et plus précisément dans les environs de la rue Mouffetard, où on retrouve la trace de l'artiste en 1966. C'est là, dans un quartier latin en pleine ébullition, que Bernard se produit dans les cabarets du coin, quand il ne fait pas la manche ou le barman. À cette époque, il se lie d'amitié avec un certain Pierre Barrault. Ce musicien, justement, revient tout juste du Brésil, pays que lui connaît vraiment bien, ça c'est sûr. C'est l'un des premiers à avoir importé la bossa nova et la samba en France. Et dans la capitale, il n'est pas seul à avoir jeté son dévolu sur cette musique qui nous vient tout droit de l'hémisphère sud. À Paris, le Brésil est à la mode. Cette même année 66, Claude Nougaro vient de sortir Bidonville, une adaptation du morceau Berimbau. Lavilliers, de son côté, travaille dur sa guitare brésilienne et il s'imprègne de ce chant qui relate aussi bien les joies d'un peuple que ses souffrances. Bernard fréquente à cette époque à Paris toute une communauté d'exilés qui fuient l'oppression militaire. Des musiciens, des poètes, des intellectuels. Tous ces Brésiliens lui parlent de leur pays pendant des nuits entières. Le soir, il joue sur la scène du Discophage. C'est un club où se retrouvent les Brésiliens de la capitale et où défilent les meilleurs musiciens. Lavilliers n'en perd pas une miette, il est fasciné. Alors a-t-il transformé son aventure d'un soir, vous savez, avec l'hôtesse de l'air, en grande aventure brésilienne? Ou Bernard le rêveur, Bernard l'insatiable lecteur, a-t-il simplement imaginé ce grand voyage initiatique à partir de ses rencontres et de ses sons tropicaux qui l'inspirent tant? Lui seul le sait vraiment. Et justement, à ce sujet, il jouera toujours la carte de l'ambiguïté. En 1975, il lâche un évasif « Si le Brésil n'était pas si loin, je crois que je l'aurais inventé. » Quelques années plus tôt, en 1972, il a pourtant fait une confidence assez étonnante à un journal stéphanois, une confidence qu'on pourrait presque prendre pour un aveu. « Je n'ai encore jamais mis les pieds dans ce pays, » dit-il. « Mais je crois que je le connais comme si j'y avais vécu 20 ans. À Paris, je n'ai pour amis que des Brésiliens indésirables chez eux, où règne un régime policier. » En ce milieu des années 70, Bernard Lavilliers, le chanteur, n'est pas encore connu du grand public. Il ne va pas tarder à faire parler de lui. Mais Lavilliers, le baroudeur, a lui déjà bien commencé à écrire sa légende. On est en mars 1979. En quelques années, Bernard Lavilliers est entré dans le paysage musical français. Avec les albums Le Stéphanois, puis Les Barbares, Lavilliers est passé du statut de quasi-inconnu à celui de chanteur marginal et talentueux de la chanson française. Mais c'est sur scène qu'il prend tout le monde de court. Suite à son passage à l'Olympia fin 77, un critique écrit « On a assisté à l'explosion de la plus forte charge de dynamite poétique depuis Brel ». Rarement un artiste n'avait soulevé autant une salle. Lavilliers est une bête de scène. Son passé, ses textes, ses concerts, l'artiste est une sorte de déflagration. Il a à peine 32 ans et il est déjà une légende de la chanson française.
Oh mon amour, emporte-moi.
Les concerts s'enchaînent, mais Lavilliers ne renie pas ses rêves d'ailleurs. À l'intérieur de lui, le baroudeur trépigne. Il est grand temps de reprendre la route. Ses premiers succès lui ont permis de s'installer avec sa famille à Saint-Malo. Il s'est même acheté un bateau qu'il a baptisé le Corto Maltese, du nom de ce marin de bande dessinée qui mène une vie d'aventure aux quatre coins du globe. Bernard est aussi un lecteur boulimique. Il ne loupe pas un album de ce héros qui nourrit évidemment son imaginaire de voyageur. Depuis la cité corsaire, Bernard contemple le large et rêve de mettre les voiles. C'est la musique qui l'aidera à choisir sa prochaine destination. Voilà donc le chanteur globe-trotteur qui embarque pour le Nouveau Monde au printemps 1979. Première escale, la Jamaïque. Pour son nouvel album, Lavilliers veut revenir à ses rêves de voyage. « Je n'étais pas parti pour faire un disque, mais pour partir », dit-il. Avec les tournées en France, je n'avais pas bougé depuis trop longtemps, j'avais envie de respirer. Il n'empêche que Bernard a envie d'aller voir de plus près d'où vient ce son reggae et ce Bob Marley qui sont en train de déferler sur les ondes de la planète entière. Et son aventure jamaïcaine commence dès sa sortie de l'avion. C'est reparti pour une histoire. Le chanteur et sa compagne débarquent à Kingston de nuit, en pleine tempête tropicale. Le couple s'engouffre dans un taxi, direction l'hôtel. Sauf que le soi-disant chauffeur de taxi a une toute autre intention, les conduire dans un endroit tranquille pour les braquer. À l'époque, le pays vit quelques tensions politiques, on en parlait dans un précédent confidentiel sur Bob Marley, et il n'est pas si rare de retrouver des cadavres de touristes dans la capitale jamaïcaine. La voiture a donc pris une route isolée. Mais le chauffeur est un piètre conducteur et avec cette pluie battante, sans essuie-glace, le véhicule fait une sortie de route et se retrouve sur le toit. Tout le monde est sonné, le chauffeur s'enfuit, les deux Français ont de la boue jusqu'aux cuisses, ils réussissent quand même à récupérer leur sac et leur guitare et vont finir par arriver jusqu'à leur hôtel en stop. Les jours et les semaines suivantes, sans aucune connexion locale, Lavilliers essaie de mieux comprendre le pays et de remonter le fil de la musique jamaïcaine. Il se balade à Kingston, il se rend à Trenchtown, le ghetto de Bob Marley. Un jour, il atterrit dans un magasin un peu foutraque où on vend à la fois des disques, des casseroles et des chaussures. Mais dans l'arrière-boutique, un groupe répète. Les Gladiators. Nanar s'imprègne. Il prend des notes. Il jette des mots sur ses cahiers d'écoliers qui ne le quittent jamais. À deux pas de son hôtel, Bernard continue en parallèle de son imprégnation musicale ses entraînements de boxe. Il en faisait déjà à Saint-Étienne. Un grand Jamaïcain baraqué lui sert de partenaire. De fil en aiguille, les deux boxeurs sympathisent. À première vue complètement anodine, cette rencontre va en provoquer une autre, et pas des moindres. La suite, c'est Bernard Lavilliers qui l'a raconté en novembre 2023 au micro de RTL. Bonsoir.
Bob Marley m'avait conseillé ce groupe et ce studio-là, pas le plus cher. Et il n'y a rien à faire. C'est quand même eux qui ont créé le reggae, les Jamaïcains. Et c'est pas la peine d'essayer d'en faire en dehors. Enfin, moi, je préfère retourner.
Quoi qu'il en soit, ici.
Oui, parce que il y a quand même un truc. C'est comme les latino-new-yorkais jouent pas pareil que les cubains. Je vous le dis tout de suite.
C'est pas la même chose. Bob Marley là, parce qu'on dit ouais, Bob Marley m'a conseillé. Mais comment on le rencontre, Bob Marley? Vous l'avez rencontré comment?
Je l'ai rencontré. J'ai pris mon temps parce qu'il était pas là. De toute façon, au départ, rencontrer Bob Marley qui est pas tellement un grand bavard et qui les blancs, c'était pas vraiment son truc, mmh. surtout à l'époque là-bas. Il nous appelait Blood Clout. Ton pack sang. Oui. Ah ben oui. Et finalement, on entrait dans une salle de boxe, toujours pareil. Je tombe sur un genre d'Holyfield comme ça. Et il voit ma technique. Et je lui dis, attends, bouge pas, tu fais 1m98 et 120 kilos. On va y aller doucement. Et puis après, on devient pote parce que de toute façon, c'est pas pareil. Les sportifs, il n'y a pas une histoire de couleur là. Enfin, normalement. Et alors, c'était le garde du corps de Bob, lui. Et voilà, c'est tout. Et, mais parce que j'aurais pas osé aller emmerder Bob Marley, toc toc, en lui disant oh, je suis français, j'écris des chansons, je suis né. Je le sens pas ce truc-là.
Lavillier rencontrera Bob Marley chez lui, à Hope Street. Dans son livre Écrire sur place, il relate. Marley parlait peu. Les silencieux m'impressionnent toujours. Il avait déjà le crabe, mais ne le disait à personne. Il était en train de finir de construire le studio Tuff Gang. Il avait écouté une de mes chansons. La star du reggae lui offre une bague, rouge, verte et jaune, les couleurs des Rasta, et le conseille sur les musiciens et les studios. Arrivé dans le Saint des Saints, et tout imprégné des vibrations de la ville, Lavillier enregistre sur place et dans la foulée Kingston et Stan de Ghetto. Le chanteur Globetrotter vient de mettre en boîte une chanson qui deviendra l'un de ses plus grands succès. De retour à Paris avec ses bandes sous le bras, Lavillier le baroudeur n'a qu'une envie, oui oui, reprendre le large. Plusieurs mois après son périple jamaïcain, Bernard Lavillier veut réussir le même pari qu'à Kingston et capturer l'essence d'une autre musique latino-américaine. Direction donc New York. Oui, New York. Quand Lavillier s'envole pour la grosse pomme à l'automne 79, il cherche d'abord à capter l'énergie de Manhattan, celle des punks, des dealers ou des prostituées de la 42e rue. Il loge à l'hôtel Navarro. C'est le QG des musiciens rock de l'époque. C'est là que les Rolling Stones ou les Who ont établi leur base arrière quand ils sont en tournée aux États-Unis. Lavillier fréquente le CBGB, où se produisent les New York Dolls ou Patti Smith. Il commence ses enregistrements au Power Station sur la 52e rue. Dans le studio d'à côté, il y a Bruce Springsteen. Les deux artistes se parlent, le courant passe bien, ils poursuivent au restaurant, puis en boîte de nuit. Lavillier racontera cette soirée quelques années plus tard dans une interview. Dans cette toute petite boîte de rock, il y avait Bowie. Soirée superbe, Springsteen fait un bœuf, me joue des trucs au piano. On est devenus potes ce soir-là. Mais à Manhattan, Lavillier va aussi découvrir un autre aspect plus inattendu de la ville américaine. Un soir, le Stéphanois débarque au Corso. C'est un ancien théâtre du Lower East Side. Deux étages, rythme endiablé, des belles sud-américaines de la Big Apple qui se déhanchent. Il est le seul blanc de la boîte. C'est Raquel, une portoricaine, qui lui a donné rendez-vous là. C'est elle qui va l'initier au New York Latino, celui des boîtes clandestines et des salles de jeux enfumées. Ni une ni deux, Bernard s'installe dans le Spanish Harlem. Dans ce quartier hispanique où partout, il entend cette musique chaude et cuivrée. Et la fièvre le gagne à son tour. En une nuit, il écrit un morceau qu'il va présenter dès le lendemain matin à un producteur, un certain Luis Ramirez. C'est le Quincy Jones de la salsa. Car c'est bien de salsa qu'il s'agit. Lavillier vient d'accoucher d'un texte et d'une rythmique qu'il connaît en fait encore très mal. Il est 9h du matin. Un percussionniste tout endormi lève péniblement la tête de ses congas. La nuit a été difficile. Il s'appelle Ray Barreto. C'est un cador du genre. Il commence à jouer la chanson de Lavillier. D'autres musiciens qui arrivent au compte-gouttes les rejoignent. Vous voyez la scène. Le minot de Saint-Étienne est dans ses petits souliers. Devant lui, il a toute la crème de la salsa qui est en train de faire tourner son morceau. Sacré baptême du feu. Derrière la vitre du studio, Luis Ramirez fait signe à Lavillier de commencer à chanter. Il se jette à l'eau.
Tout le gang était là. Ceux de Porto Rico, ceux de Cuba.
En écrivant et en enregistrant sur place, comme à Kingston, Lavillier a encore réussi son pari. Sa salsa est une véritable carte postale audio du New York latino de cette fin des années 70. Le chanteur voyageur est vraiment en train de trouver son style. Chanter des histoires venues d'ailleurs, qui parlent des gens et sur des musiques qui leur ressemblent. Une dernière escale lui paraît essentielle pour achever ce nouvel album, et pas n'importe laquelle pour Lavilliers le baroudeur, puisqu'il s'agit de celle où tout a commencé, le Brésil. On en a parlé, Lavilliers a une véritable histoire d'amour avec le Brésil et sa musique, la bossa nova, mais surtout la samba. En cette année 79, ce voyage là-bas sonne donc comme un retour aux sources pour le chanteur voyageur, mais aussi comme un moment clé de son histoire. Car souvenez-vous, c'est ici que s'est écrit le début de sa légende.
Le cavalier que je croise sur son cheval roux, son fusil en bandoulière qui tire des clous, a traversé ce désert, la sèche et la boue, pour chercher quelques cruzeiros à Caruaru.
Ce Brésil, il l'a découvert dans les livres de Blaise Cendrass ou par le film Orfeo Negro. Et il l'a ensuite maintes fois parcouru, que ce soit dans ses rêves ou en camion. Mais cette fois, ce qu'il ramène de Rio, c'est du concret. De la musique enregistrée ici même, dans la cité Carioca, à deux pas du pain de sucre, des plages de Copacabana et d'Ipanema. Ce gringo qu'il chante, cet étranger qui débarque pour la première fois dans ce pays, qui ne parle pas portugais et qui se prend le Brésil en pleine gueule, avec sa misère, sa violence, sa beauté aussi. Vous l'avez compris, ce gringo, quelque part, c'est un peu lui. Alors finalement, que ce soit il y a 15 ans ou en cette année 79, peu importe, Lavilliers est de retour chez lui au Brésil, un pays où il aurait pu naître. Pour le baroudeur, la vie et la légende ne font plus qu'un. Le public ne le contredira pas, et même, il adoubera ce chanteur globetrotteur qui parfume ses textes de musique tropicale. À sa sortie en 1980, l'album O Gringo est un grand succès populaire, celui qui ouvrira la voie au mythe du Lavilliers voyageur, celui du Corto Maltese de la chanson française. Par la suite, Bernard Lavilliers fera beaucoup d'autres voyages à travers le monde. Haïti, Argentine, Vietnam, Salvador, Nigeria, Liban, Nicaragua, Cap-Vert, Congo, Afrique du Sud et bien sûr encore le Brésil. Toutes ces nouvelles aventures feront naître des albums, des chansons, des reportages aussi. Pour Lavilliers, le voyage commence dès qu'on l'imagine, comme il le dit dans Écrire sur place. La littérature est essentielle pour imaginer, rêver en amont, créer une sorte d'alchimie. Avant de partir, je lis des livres, je les relis, j'en emporte, puis je sors dans la rue, je me balade, je cherche les odeurs, les atmosphères, les lumières, je regarde, je croise des gens. J'ai envie de voir comment le monde marche et d'écrire sur place. Une fois sur place, le Lavilliers baroudeur se considère comme le porte-voix de la colère des sans-voix. Le globe-trotteur se mue en conteur. Ses histoires rapportent les mots, M-A-U-X, des peuples opprimés, des enfants soldats ou des chanteuses au pied nu. La poésie et la musique sont ses meilleures armes. Depuis les fameux laminoirs de la manufacture de Saint-Étienne, Bernard Lavilliers aura vécu 1000 vies. Il aura aussi écrit 1000 chansons et connu 1000 pays. Et ce soir du 9 février 2024, 44 ans après la sortie de O Gringo, le Brésilien de cœur est sur une île. Oui, mais bien loin des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. Une île minuscule coincée entre deux rives de la Seine. Cette île aux portes de Paris représente à elle seule la trajectoire de l'homme, Bernard Lavilliers, l'île Seguin. Ce site a lui aussi un passé ouvrier, du temps de l'usine Renault. Elle est devenue un lieu incontournable de la musique, depuis qu'elle héberge une belle salle de concert, la scène musicale. C'est là que Lavilliers sera sur scène le 28 mars 2024 avec un orchestre symphonique. Et justement, 2 mois auparavant, en ce soir du 9 février, c'est là aussi que se déroule la cérémonie des victoires de la musique. Bernard Lavilliers doit y recevoir une victoire d'honneur. Pour reprendre ses plus grands titres, il y a le duo stéphanois Terre Noire, Jeanne Chéral, Olivia Ruiz ou encore son amie Catherine Ringer. Devant cet hommage poignant, Lavilliers le baroudeur a du mal à retenir ses larmes. C'est donc l'artiste qui monte sur scène pour entonner un émouvant noir et blanc. Tout Lavilliers est là, résumé en quelques mots. Un artiste continuellement entre deux rives, qui chante un message universel, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ça dépend des latitudes, ça dépend de ton attitude, c'est 100 ans de solitude. Il y a du sang sur mon piano, il y a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs. Font grincer les dents du grand libérateur. N'importe quel pays, n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. C'est une ville que je connais, une chanson que je chantais, une chanson qui nous ressemble. C'est la voix de Mandela, le tempo Dr. Fela. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. N'importe quel pays, n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. N'importe quel pays, n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur.
Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Bernard Lavillier. Cet épisode a été réalisé par Tristan Boucher, écrit par Thomas Pierre et programmé par Marie Conqui. Tous les numéros de Confidentiel sont disponibles et à consommer sans modération sur l'appli RTL ou sur rtl.fr.